Mesdames, Messieurs, bonjour au programme de votre journal des sports de ce mardi 12 juillet 2022, du football, du tennis et du cyclisme. Et on commence avec le football, donc l'Euro féminin qui a débuté en Angleterre. Les Françaises ont fait une entrée fracassante dans la compétition. Les Bleues qui ont battu les Italiennes 5 buts à 1. On écoute la joie, la satisfaction de la sélectionneuse Corinne Diacre.
Il fallait qu'on gagne ce premier match, c'est chose faite. On essaye toujours de trouver les mots qu'il faut, la motivation pour cette deuxième période, mais quand on mène 5-0... On avait tellement tout fait sur la première période que c'était... Voilà, on a essayé malgré tout, mais bon, très satisfaite de ce premier match et de cette première victoire. Et maintenant, on va s'atteler à la tâche pour le deuxième match, effectivement.
Et en Formule 1 à présent, hein, 3 mois jour pour jour après sa victoire au Grand Prix de Melbourne, eh bien Charles Leclerc, le pilote de Ferrari, a remporté le Grand Prix d'Autriche ce week-end. Deuxième sur le podium, Max Verstappen. Lewis Hamilton, lui, arrive en 3e position. On écoute le pilote de Mercedes.
Massively satisfying. So happy too. It's a bit. I was a bit lonely at once. I got those guys were like 30 something seconds ahead of me. So I was just watching their race on the TV. So down the straights, I was just watching where they were. I could see them coming through like turn 6 as I was coming out turn 1. So I was getting a bit of a fan view of what was happening. I saw some of the overtakes they were having. I think they did replays and stuff. So. Yeah, but to after such a difficult weekend, you know, with the crash, with a monumental effort from the team to rebuild the car, this is a really great result. So I'm very grateful.
Et la prochaine course, c'est le Grand Prix de France hein, sur le circuit Paul Ricard. Rendez-vous le 24 juillet à 23h heure de Melbourne. On passe au tennis avec la finale du tournoi de Wimbledon et une fois encore, Novak Djokovic a brillé. Le Serbe l'a emporté en 4-7 sur l'Australien Nick Kyrgios, 4-6, 6-3, 6-4, 7-6. Il s'agit de la 21e victoire en Grand Chelem pour Novak Djokovic et sa 7e victoire sur le gazon londonien. Au total, on l'écoute.
Je n'ai plus les mots pour décrire ce que ce tournoi, ce que ce trophée représente pour moi, mon équipe, ma famille. Ça restera pour toujours le tournoi le plus spécial pour moi, celui qui me tient le plus à cœur, celui qui m'a donné envie de pratiquer le tennis dans ce petit village de Serbie où mes parents tenaient un restaurant. J'avais 6 ans et j'ai vu Pete Sampras remporter son premier Wimbledon en 1993. J'ai demandé à mes parents de m'acheter une raquette, d'où mon attachement au gazon et à ce tournoi. J'ai toujours rêvé de venir ici, simplement jouer sur ce court et bien sûr réaliser mon rêve d'enfant en soulevant la coupe. Chaque victoire ici me motive encore plus. Je suis reconnaissant d'être devant ce public avec ce trophée.
Meaningful and special, and so I'm very blessed and very thankful to be standing here with the trophy.
L'Australien Nick Kyrgios, aussi fascinant que détestable, s'est dit fatigué à l'issue de ce dernier match. C'est la première fois qu'il atteint une finale en Grand Chelem. On l'écoute.
Myself, my team, I think we're all exhausted. You know, we played so much tennis, but. I definitely need a well-earned vacation after this one. So I'm just really happy with this result. It's probably the best of my career and hopefully maybe one day I'll be here again, but I don't know about that.
Du côté des dames, eh bien, victoire de la Kazakhstanaise Elena Rybakina sur la numéro 2 mondiale Ons Jabeur en 3 manches, 3-6, 6-2, 6-2. C'est la première victoire en Grand Chelem pour la joueuse de 23 ans. Écoutez.
Thank you so much. I'm actually speechless because I was super nervous before the match, during the match, and I'm honestly happy that it finished, to be honest, because really, I never felt something like this, and I just want to say big thanks to the crowd for the support. It was unbelievable.
Déception de la Tunisienne, hein, mais émotion également, puisque Ons Jabeur est la première africaine à se hisser en finale de Grand Chelem.
I love this tournament so much and I feel really sad, but I mean, it's tennis, there is only one winner. I'm really happy that I'm trying to inspire, you know, many generations from my country.
On ouvre la page cyclisme à présent et les coureurs du Tour de France se sont reposés hier. On apprend que l'Australien Ben O'Connor ne s'élancera pas au départ de la 10e étape ce soir. L'Australien qui pourtant était un espoir sur cette grande boucle, un espoir de podium voire de victoire, eh bien il s'est blessé. Il sera présent à la Vuelta mais il ne partira pas ce soir. On l'écoute.
The stage to Lausanne, I tore my glute muscle, so pretty much I'm just pedaling with one leg. So it's been really difficult. I fought yesterday, and I really wanted to try see if I could get past this point of pain, but it's just way too much. You have like a knife in your ass, more or less. So it's pretty brutal, and I don't think it's going to get better by the end of the race. So. Yeah, I won't be making the start for stage 10.
Repos hier donc, et 9e étape, c'était dimanche, la première étape dans les Alpes entre Aigle et Châtel. Étape qui a vu la victoire de Bob Jungels, le Luxembourgeois, en solitaire après une échappée d'une soixantaine de kilomètres. Écoutez.
Ouais, bien sûr, j'ai beaucoup d'émotions qui sont présentes là. Donc voilà, c'était mon grand but de gagner une étape. Mais voilà, depuis quelques semaines, je vois que je reviens un peu à peu. J'ai vu lors du Tour de Suisse que je grimpe bien, que je fais des beaux chronos. Et voilà, hier j'étais là avec les meilleurs, mais j'ai déjà dit d'être là avec les meilleurs et de gagner une étape, c'est deux choses très différentes. Et voilà, en plus je pense que aujourd'hui j'ai tout risqué, j'ai tout mis sur une carte. J'ai essayé de loin et voilà, après voilà, le succès est énorme, les émotions sont énormes et je pense que ça va prendre un peu de temps avant de réaliser qu'est-ce que j'ai vraiment fait aujourd'hui.
Échappée dans laquelle figurait également Thibaut Pinot. Le Français aurait presque pu rattraper Bob Jungels dans la dernière ascension, mais Thibaut Pinot a finalement fini quatrième. Thomas de Saint-Léger pour Radio France Internationale.
Les yeux dans le vide, assis sur une petite chaise en plastique, à quoi pense Thibaut Pinot avant de monter sur le podium pour recevoir le prix de la combativité? Peut-être rembobine-t-il le film de cette étape qu'il avait abordée, remontée comme un coucou suisse après sa chute d'hier. Dans la bonne échappée, le grimpeur français laisse filer Bob Jungels pour mieux le rattraper, pense-t-il. Dans le dernier col, l'écart fond, 2 minutes, 1 minute 30, 1 minute, 20 secondes, presque rien, mais 20 secondes de trop à l'arrivée, Thibaut Pinot.
J'ai cru, c'est vrai que j'ai un peu de regret, j'aurais su que j'étais pas si mal que ça au final et que tout le monde était un peu cuit dans le groupe, j'aurais peut-être attaqué un peu plus tôt. C'est qu'après qu'on peut s'en rendre compte, après Jungels a fait un numéro et il mérite sa victoire. Ouais.
Pinot, simple coureur, après avoir été grand leader, n'a rien perdu de ce panache qui fait sa popularité. Ses jambes de 32 ans ne sont plus celles d'antan, son corps doit se remettre d'un épisode Covid, mais des jours meilleurs arrivent, promet son coéquipier David Gaudu.
Ouais, je pense surtout qu'il a encore un petit peu des restes du Covid. Vous savez, le Covid, ça couche un homme, donc le voir à ce niveau-là, c'est déjà pas mal. Et on sait de quoi il est capable une fois qu'il est lancé. Il va être revanchard et je pense qu'on va retrouver bientôt du grand Thibaut.
Du Pinot grand cru, comme celui capable de gagner à l'Alpe d'Huez ou au Tourmalet, le public en rêve. Rendez-vous dans les prochains jours.
Et le maillot jaune reste donc en attendant sur les épaules du Slovène Tadej Pogačar. Le Tour de France, la grande boucle, est suivi de près par notre collègue Christophe Mallet puisqu'il est sur place. Et toutes les semaines, il nous fait vivre l'atmosphère, l'ambiance, les coulisses. Épisode numéro 2 du Tour de France par Christophe Mallet, c'est une interview signée Thomas Mercier.
On retrouve Christophe Mallet depuis la France en direct du Tour de France. Bonjour Christophe.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors après une semaine, comment se passe le tour ?
Plutôt pas mal. On est un peu dans l'expectative, sachant que on se demande encore comment tout ça va pouvoir se dérouler sur la semaine à venir. Mais la réalité, c'est que y a un leader qui était très attendu, Tadej Pogačar. Il est déjà en jaune, il est déjà en tête donc du classement général, ce qui est quand même une petite surprise. On va en parler si vous voulez, mais c'est ouais, voilà, et on va attendre savoir s'il est sur le point d'atomiser le Tour de France ou si les autres vont pouvoir un petit peu le défier sur les routes du Tour.
Alors là, la dernière étape, ça s'est passé en Suisse, un petit tour en Suisse et on retourne en France, première étape de montagne. Il faisait chaud, il faisait beau, des paysages spectaculaires. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de cette dernière étape ?
En fait, si on revient un petit peu en arrière, c'est le quatrième pays qu'on traverse avec ce Tour de France, puisqu'on a été au Danemark, on a été en Belgique, en France et maintenant la Suisse. La beauté des paysages, bien entendu, parce que la Suisse, c'est quand même magnifique, c'est beau, c'est vraiment très chaleureux, et puis il y a une vraie culture du vélo. Et puis la dernière étape, c'était une belle étape, pas encore une étape de montagne à proprement dit, mais ça, c'est une sorte de petit teaser qui donne envie, qui donne l'envie d'en voir plus, et ça arrive dans les prochains jours. Toute la semaine prochaine, il y aura une grosse partie d'étapes alpines, et ça, c'est toujours un peu le point d'orgue du Tour de France.
Oui, cette année en plus le programme du Tour, il est vraiment axé sur la montagne. Et côté australien, ça donne quoi cette année pour le moment?
Ça donne du plaisir parce qu'il y a eu une victoire avec Simon Clark, et puis la déception parce que Ben O'Connor, qui était le grand espoir du cyclisme australien, en tout cas pour cette année, a quelques petits problèmes de santé avec sa cuisse. Du coup, voilà, des hauts et des bas un peu cette semaine, avec aussi Caleb Ewan qui n'a pas pu gagner d'étape sur les étapes de sprint. Donc à voir si ça va être possible dans le courant de la semaine qui arrive, mais ça risque d'être compliqué, en tout cas compliqué pour les Australiens de faire plus. Mais bon, de gros espoirs sur les jeunes pousses comme Nicolas Schulz, où il y a encore Luke Durbridge qui peuvent peut-être faire quelque chose cette semaine, donc ça va être très 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 intéressant sur la semaine à venir.
Et côté français,
c'est un peu la Bérézina on va le dire. On avait quand même je rigole mais c'est vrai que voilà, il y a Romain Bardet qui est très bien placé, et c'est peut-être le seul espoir français pour pouvoir faire quelque chose à ce Tour de France, peut-être même un podium, ça peut être intéressant. Romain Bardet, il avait déjà fait, il a fait deux podiums au Tour de France, une fois troisième, une fois deuxième. Il lui manque donc la plus belle marche. Ça va être quand même compliqué pour Romain Bardet d'aller chercher la victoire, mais il peut très bien atteindre une troisième, voire même une deuxième place sur le podium. Il est très bien placé. Et puis voilà, on a vu des éclats qui peuvent arriver. Et on l'a vu ne serait-ce que dimanche avec Thibaut Pinot qui était à 40 secondes du bonheur. Mais à 40 secondes du bonheur, ça le place quatrième et ça le place pas premier de l'étape. Même s'il a vraiment fait une belle poursuite pour essayer de rejoindre le luxembourgeois Bob Jungels. Mais ça n'aura pas suffi. Donc, pas de victoire étape française pour le moment, mais on espère que ça devra arriver. Et puis, voire même cette semaine, il y a quelques belles échappées qui peuvent se créer avec des belles opportunités pour les Français.
Alors, c'est vrai que le mental a été mis à rude épreuve lors de cette étape entre Jungels et Thibaut Pinot, puisqu'il était parfois à 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes. Il était là, il le touchait, il n'a pas réussi à l'atteindre. Le mental est vraiment mis à l'épreuve durant cette étape.
Ouais, moi, je pense qu'on se rend pas compte à quel point le vélo, c'est un sport mental aussi. On peut être vraiment, quand vous vous rendez compte, si vous devez suivre quelqu'un pendant près de 60 km, vous n'êtes qu'à 30 secondes, vous le voyez en point de mire, mais vous n'arrivez pas à gagner une seconde dessus, mentalement, ça vous ruine. Donc, c'est là où on reconnaît les champions, des très grands champions, des très, très, très grands champions, en fait. Qu'une victoire d'étape, ça ne se gagne pas que forcément dans les jambes, ça se gagne aussi dans la tête. Et on l'a vu d'ailleurs beaucoup cette semaine avec Simon Clark, australien, quand il a gagné son étape. Il a battu au sprint un autre coureur, donc j'ai oublié le nom, mais en fait, il l'a gagné pas dans les jambes, mais il l'a gagné dans la tête, il a été plus malin. Donc c'est très 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 important le niveau mental pour tout ce qui est cyclisme.
Alors ce qu'on dit souvent dans le cyclisme, si le mental ne suit pas, les jambes sont coupées. Littéralement, c'est qu'il n'y a plus de jambes, plus rien se passe. On est à l'arrêt total. On a vu quelques coureurs lors de la dernière étape s'arrêter quasiment, d'être au ralenti. C'est une souffrance d'ailleurs de les voir à l'image ralentir et voir cette descente de vitesse et voir tout le peloton qui passe à côté d'eux. C'est vraiment quelque chose de très dur à regarder, hein, parfois.
Ouais, c'est sûr qu'on voit de la misère humaine. Bon, après, c'est sûrement pire dans le monde, c'est sûr, mais là, c'est de la vraie douleur physique et on se rend compte à quel point le sport, comme le sport du cyclisme, est vraiment très, 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 très dur pour les organismes et également pour la tête, comme vous l'avez dit. Ouais.
Alors, les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on a au programme, Christophe ?
De la montagne, de la montagne, de la montagne, et surtout, on se dirige, on est encore dans les Alpes et on se dirige vers les Pyrénées, donc il va y avoir des étapes de montagne avec de belles arrivées. Il y a Megève comme arrivée, il y a Morzine, donc ça va être vraiment des belles stations de ski très connues, mais aussi des belles grosses montées. Puis surtout pour moi, on en reparlera peut-être la semaine prochaine, mais les Pyrénées arrivent et il y a des montées de légende, des montagnes de légende comme Otakam qui sont au programme depuis une éternité autour de France, et elles ne reviennent pas forcément tous les ans, voire même pas souvent, et quand il y a une ascension comme Otakam avec une arrivée à Otakam, pour moi ça va être l'étape, c'est l'avant-dernière étape de ce Tour de France, et ça va être une étape qui est déjà mythique sur le papier. Donc on espère que ce sera de même sur vos écrans de télé.
Autant dire qu'on est vraiment impatient. Et on avait une petite question subsidiaire pour aujourd'hui. On parle souvent de l'impact écologique du Tour de France. Est-ce que vous avez quelque chose à nous partager à ce niveau-là? On sait que le Tour de France fait des efforts pour le rendre plus éco-responsable. Et vous qui êtes sur le Tour, est-ce que vous voyez des choses qui changent au fur et à mesure des années?
Oui, c'est vrai qu'on sent qu'il y a beaucoup plus de responsabilités au niveau du Tour parce que les choses sont faites. C'est difficile de faut qu'à un moment ou un autre, les gens se déplacent en voiture quand même. Donc c'est difficile de changer les choses. Par contre, les véhicules sont tous les véhicules présents sur le Tour de l'organisation sont de modèle hybride. Et puis après, il y a tout ce qui est fait par rapport au recyclage. C'est pour ça que vous voyez les coureurs qui n'ont le droit de vider leurs poches, vider leurs déchets, leurs détritus qu'à certains endroits et des grosses amendes s'ils font en dehors de ça. Et puis, il y a tout ce qui est aux alentours. C'est quand il y a les toilettes sèches, par exemple. Il y a plus de bouteilles d'eau. Et après, voilà, il y a des opportunités pour le Tour de France d'être plus vert, mais c'est compliqué d'être complètement vert sur une épreuve comme celle-ci. Après, voilà, on va voir comment tout cela évolue. L'important, c'est que les véhicules soient hybrides. Il y a beaucoup moins d'eau, de bouteilles, de plastique distribuées. Il y a des collectes qui sont effectuées. Ouais, c'est pas forcément encore tout à fait ça, mais je pense que honnêtement, et je le pense vraiment, le Tour de France fait un effort. Et de tous les événements sportifs auxquels j'ai pu assister, c'est peut-être un de ceux qui laisse à penser qu'il y a quand même le plus d'efforts qui est fait.
Merci beaucoup Christophe, on est impatient de se retrouver la semaine prochaine pour faire un nouveau point sur le Tour de France, pour encore des belles étapes mythiques avec des paysages à couper le souffle, avec des Français, on espère, qui vont remonter la pente si je puis me permettre.
Ouais, et absolument, merci Thomas.
Merci Christophe, à très vite.
Et avant de clore cette page largement consacrée au Tour de France édition 2022, eh bien sachez que le Français Julien Alaphilippe, qui a dû se déclarer forfait pour le Tour de France 2022, eh bien s'élancera bel et bien, lui, de la Vuelta, le Tour d'Espagne, qui commencera le 19 août prochain. Et la Vuelta ainsi que le Tour de France 2022 sont bien sûr à suivre, comme d'habitude, sur SBS et SBS On Demand. Voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. C'était votre journal des sports du mardi 12 juillet.